Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de sortir du capitalisme intitulée aujourd'hui, entre Macron et Mélenchon, les classes moyennes salariées. Alors après avoir, dans une première partie d'émission, beaucoup parlé du rapport des classes moyennes salariées à la politique, donc que ce soit au travers de leur rapport avec des figures comme Macron et Mélenchon, de leur intervention politique de manière générale, de leur intervention au sein des luttes sociales, même si on en reparlera peut-être un petit peu. Dans la deuxième partie de cette émission, on se proposait, donc avec notre invité Alain, animateur du blog Carbure et auteur de plusieurs articles sur cette question, donc notamment l'article dont on a parlé dans la première partie de l'émission Macron, classe moyenne et politique, réflexion sur la présidentielle 2017, mais aussi des articles sur l'interclassisme et la question des classes moyennes. On se proposait d'essayer de théoriser un petit peu la classe moyenne salariée, ses différentes fractions, et son rôle, ou ses rôles plutôt, au sein du mode de production capitaliste. Bon, je proposais de partir des deux premiers épisodes d'un feuilleton de Bruno Astarian sur justement les classes moyennes. Alors justement, lui, il commence par, voilà, et par poser la question, la classe moyenne salariée existe-t-elle? On l'a largement montré dans la première moitié de l'émission, mais pour reprendre son argumentaire, et c'est important aussi, pourquoi est-ce qu'on a tendance à aussi, il reprend tous les arguments qui sont invoqués pour dire qu'elle n'existe pas. Tout d'abord, en disant que finalement, la classe moyenne était une classe avec laquelle on pouvait s'allier. Donc ça, c'était un peu la perspective du Parti communiste, même s'il y avait toujours quand même un bouc émissaire qui était la petite bourgeoisie, avec laquelle on ne pouvait pas s'allier, mais on pouvait s'allier quand même avec ce que Alain Bire appelle l'encadrement.
C'est un point de vue un peu léniniste, selon lequel la classe moyenne serait une catégorie tellement inessentielle, en réalité, à la contradiction entre le prolétariat et le capital, qu'on pourrait éventuellement la prendre à son propre jeu et à réussir à la subvertir parce qu'elle compose l'encadrement politique, etc., à la subvertir pour amener le prolétariat vers la victoire finale, c'est-à-dire la prise du pouvoir d'État, quoi, grâce au boulot.
Et bon, ça fait penser quand même au fait qu'en URSS, une bonne partie de la classe d'encadrement a été recyclée ensuite, les techniciens notamment, dans les usines. Et tout. Il y avait à la fois un impensé des classes moyennes salariées d'encadrement et à la fois quand même une valorisation du technicien, avec plutôt quand même une critique qui a quand même été très forte dans les courants que la communication appelle programmatistes, qui est la critique finalement des parasites. Mais finalement, la classe moyenne salariée étant rarement pensée comme parasitaire, par la petite bourgeoisie des commerçants, des artisans et tout ça, qui est beaucoup décriée, il y avait une possibilité, disons, politique de s'allier avec eux, et puis finalement, il faut quand même rappeler que les représentants politiques du prolétariat, historiquement, ont toujours été globalement des membres, justement, de l'encadrement et des classes moyennes salariées, ce qui faisait d'ailleurs qu'Alain Bire, dans son ouvrage « L'encadrement capitaliste entre bourgeoisie et prolétariat », allait jusqu'à dire que finalement, le socialisme en URSS, le capitalisme d'État en URSS, c'était la victoire, en fait, de l'encadrement sur à la fois le capital et sur le prolétariat. Et alors peut-être que c'est une théorie qui va un petit peu loin, mais c'est vrai que finalement il y a eu une espèce de réconciliation, c'est-à-dire il n'y a plus de capital, il n'y a plus de prolétariat, puisque les bureaucrates étaient les représentants du prolétariat et en même temps c'était eux la classe d'encadrement. Enfin, il y a une espèce de...
Bah, dès lors qu'il s'agit d'organiser le prolétariat et les forces productives, bah, effectivement c'est la classe de l'encadrement qui prend le dessus. Effectivement, c'est pas faux hein, de le présenter comme ça. J'ai pas lu le bouquin de Bire, mais on peut imaginer que bah, même aujourd'hui, si Mélenchon gagnait, si effectivement par extraordinaire en fait on pouvait réaliser ce projet d'un État un peu fort, etc., qu'est-ce qui prendrait le dessus? Ce serait les classes de l'encadrement qui organiseraient, qui géreraient l'exploitation pour le mieux, quoi, pour le bien commun.
C'est ça. Et donc, c'est là où on voit, on revient à la première partie de l'émission, sur le fait que les classes moyennes salariées ont bien un projet politique, que ce soit une société d'encadrement étatique généralisé, qui là serait plutôt qui aboutit finalement à l'URSS, ou... un projet plutôt libéral, qui est presque la société managériale, où l'encadrement privé dit qu'il faut que tout le monde se soumette aux contraintes du impersonnel du marché, tout ça. Bon, enfin bref, on va pas revenir sur cette question-là. Ensuite, il dit qu'il y a un autre argument qui a été avancé en faveur du fait que les classes moyennes joueraient pas un rôle très important. C'est alors évidemment que c'est des salariés, donc finalement c'est des salariés comme les autres. Donc là, je pense que l'exemple typique, c'est Lordon. Voilà, Lordon, c'est vraiment promeut l'alliance des cadres dépressifs stressés et des prolétaires. Donc là, on a vraiment la version un peu caricaturale de ça. L'alliance des salariés et des cadres, hein, au nom du salariat. Voilà, c'est pour ça qu'on met beaucoup en avant aujourd'hui Bernard Friot, tout ça, des notions un peu de, interclassistes de salariat. Ensuite, ça va de pair avec l'idée que, comme de toute façon la classe moyenne est en train de se prolétariser très fortement, le déclassement, tout ça, effectivement, les profs, en termes de revenus, se sont vachement rapprochés des prolétaires, donc effectivement, il y a un élément tangible, et on a répondu à ça dans la première partie de l'émission en disant que la plupart des classes moyennes salariées, quand même, se vivaient plus pauvres qu'elles n'étaient en réalité. Ensuite, évidemment, le dernier élément qu'il avançait, c'était le fait que la théorie critique était largement produite par des gens justement des classes moyennes salariées qui avaient tendance, logiquement, hein, à s'identifier plutôt au prolétariat et du coup qui avaient une forme d'impensée vis-à-vis de ça. Pour lui, il faut penser cette question des classes moyennes, bon, pour des raisons politiques qu'on a déjà évoquées, mais aussi, ça on en a moins parlé, pour la raison de la présence massive des classes moyennes, plus ou moins massive, dans les mouvements sociaux. Donc que ce soit l'Iran en 2009, ou là c'était l'Israël en 2011, donc là c'est vraiment des mouvements de classes moyennes presque, pas purs, mais vraiment très importants. Hong Kong en 2014 avec parapluie et tout ça, le parc Gezi avec la Turquie.
Plus compliqué
pour le coup.
Parce que bon, le centre d'Istanbul, pour l'avoir connu un petit peu, c'est effectivement, il y a encore un véritable interclassisme, interclassisme, disons, clôturé. Mixité. Clôturé, quoi. Parce que quand on se trimballe dans les alentours du parc Gezi, il suffit de faire 250 mètres à droite ou à gauche pour se retrouver dans des zones que même le. Enfin, même Noailles à Marseille, ça paraît quand même être des zones florissantes, quoi. Et dès qu'on revient sur les artères commerçantes, on a Nike et les grandes enseignes, etc. Enfin, Istanbul est une ville assez particulière à ce niveau-là, quoi.
Oui, parce que évidemment la ségrégation socio-spatiale n'est pas forcément organisée partout dans les villes du monde.
Ouais, voilà.
Comme Londres est un bon exemple.
Oui, je connais Istanbul. Mais...
Bah pour les émeutes de 2010 ou de 2011, c'était assez manifeste. Et puis d'un autre côté, il dit il faut aussi penser cette question-là parce que parfois le prolétariat s'associe aussi massivement aux classes moyennes, donc en Tunisie, en Égypte en 2011. Et aussi en France en 2016. Alors je pense qu'on va pas revenir sur le mouvement contre la loi travail parce que là vraiment ça serait
une autre émission.
Ça serait une autre émission encore. Mais là on va vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'on pourrait définir maintenant très clairement d'un point de vue sociologique, théorique, les classes moyennes salariées. Alors tout d'abord il écarte un certain nombre de choses qui sont tout d'abord les revenus. Donc il dit les revenus c'est pas un bon indicateur. Et il dit aussi que c'est vraiment une fonction qui va définir la classe qu'il appelle la classe moyenne, là une fonction dans le mode de production capitaliste, et donc déjà il va pas considérer ce qu'on a appelé historiquement la petite bourgeoisie, donc la classe moyenne indépendante, il dit qu'il va pas la traiter parce que même si elle peut avoir les mêmes revenus ou les mêmes consommations culturelles ou parfois les mêmes votes ou des choses comme ça, fondamentalement elle est très différente parce que ce qu'on peut appeler donc les classes moyennes indépendantes, en fait c'est des professions libérales, c'est des petits capitalistes en fait. Globalement c'est des petits capitalistes et donc ils sont pas salariés, donc vraiment ça fait une différence.
Ils ont pas un rapport à la production de valeur, ils consomment de la plus-value parce que des gens vont chez eux et qu'ils dépensent de l'argent, mais ils sont pas engagés dans le rapport social capitaliste essentiel qui est la production de valeur.
Pour une partie, pour ce qui est des professions libérales, et après pour ce qui est des petits patrons, enfin pour ce qui est des très petits patrons,
ils sont engagés de ce côté-là de la production de valeur. Quand même.
Voilà, pour ce coup-là. Oui, c'est vrai qu'il y a encore une notion floue, cette notion de classe moyenne indépendante. Enfin voilà, et donc lui il propose de penser les classes moyennes salariées par le fait qu'elles reçoivent du capital un sursalaire, c'est-à-dire qu'elles sont payées au-delà de la valeur de leur force de travail. Mais alors, avant de venir donc à cette question un peu économique de la question du sursalaire, c'est important de revenir sur quand même la question qu'on a un peu évacuée dans la première partie, sur la question de l'interclassisme, qui est centrale dans les mouvements sociaux actuels. Et donc, il dit que finalement, dans ce rapport au sursalaire, les classes moyennes salariées, donc le sursalaire, globalement, pour faire très simple, c'est le fait que les classes moyennes salariées sont mieux payées que les prolétaires, de quelques centaines jusqu'à quelques milliers d'euros. Bon, après, si on monte un peu plus haut, c'est beaucoup plus fort. Et ça, c'est un point de vue vraiment très, très matériel. Elles vont être payées mieux pour justement que le capital s'assure leur collaboration.
Ces classes-là se sont développées basiquement dans ce que Marx appelle la coopération, c'est-à-dire ce moment où le capitaliste n'intervient plus directement dans l'atelier, mais délègue à un ouvrier la prise en charge, la surveillance, l'organisation du processus productif pour le meilleur rendement. Dans la coopération, ce qui se passe, c'est que certains ouvriers sont choisis par le capitaliste pour l'encadrement et reçoivent donc, outre le salaire qui est la reproduction de leur force de travail, une part qui est directement prélevée sur la plus-value qui appartient en propre, en principe, aux capitalistes. Donc, ils perçoivent en quelque sorte comme un revenu du capital, mais sous forme de salaire, en raison du fait qu'ils améliorent, grosso modo, les capacités productives de l'ensemble des travailleurs qui sont sur... dans le processus productif. C'est très schématique, hein, c'est un schéma très idéal. Mais ça correspond fondamentalement à ce qu'est la place de l'encadrement dans le mode de production capitaliste.
En fait, ce qui est intéressant dans l'article de Bruno Astarian, c'est qu'il envisage, et si finalement, les classes moyennes salariées étaient payées comme les prolétaires. C'est-à-dire qu'elles assuraient des fonctions d'encadrement, qui est la définition un peu qu'on a posée, voilà, comme prof, comme administrateur, comme cadre, comme etc., contremaître. Qu'est-ce qui se passait si elles étaient payées le même salaire? Et à ça, il répond, eh ben, tout simplement, elles auraient beaucoup moins intérêt à faire bosser les autres, il y aurait moins d'identification avec l'entreprise, et aussi, il n'y aurait pas de fondement du pouvoir. Parce que finalement, du coup, quelqu'un qui n'est pas mieux payé... Il n'y a pas l'assurance, le rapport de force ne s'établirait pas de la même manière avec les ouvriers qui considéraient que c'est juste un ouvrier comme un autre et qui... Donc ça, oui. Et finalement, d'une certaine façon, on ne va pas dire que l'encadrement est né d'une espèce de scission du prolétariat, mais à long terme aussi. Mais effectivement, il, de par le processus de constitution de cette classe d'encadrement, il y a eu une rupture. Une rupture à tous les niveaux qui a été progressivement organisée, entre guillemets, même si c'est un processus, on peut pas vraiment dire qu'elle a été organisée, c'est pas un complot de la classe capitaliste, mais de facto, on a abouti à la constitution de deux classes très différentes et qui ont donc par conséquent des intérêts très divergents, et on le voit dans les luttes sociales, puisque d'un côté, la classe moyenne supérieure va jamais remettre en cause l'exploitation capitaliste. Elle va remettre en cause, à la limite, le fait qu'elle perd une partie de son sursalaire à cause de la finance, de voilà, tous les épouvantails qui sont sortis par Mélenchon et compagnie. Et par contre, dès qu'il va y avoir quelque chose qui commence à ressembler à une tentative révolutionnaire ou insurrectionnelle, là, la classe moyenne se braque, même la classe moyenne de gauche, d'ailleurs. Ce qu'on a vu, bon, évidemment, le cas paradigmatique, évidemment, c'est l'Allemagne dans les 1917-1923, où là, la social-démocratie, qui est bon, le parti des classes moyennes salariées, quand même, il faut le dire, a joué complètement contre le prolétariat et l'a écrasé dans le sang, quoi.
C'est-à-dire que plus avance ce qu'on appelle théoriquement la domination réelle du capital sur le travail, plus ce schéma qui est celui, un schéma un petit peu issu de l'atelier, hein, du processus productif direct, même quasiment pas pré-capitaliste, mais très, très archaïque, devient... Une forme de la société, c'est-à-dire au bout du compte ce que va défendre la classe moyenne dans ce rôle d'encadrement là, c'est toujours l'État, c'est-à-dire ce qui est chargé, c'est l'instance supérieure qui est chargée d'organiser le processus productif, comme le contremaître dans l'atelier, celui qui se distingue parce qu'il a un blanc de travail par rapport à ceux qui ont un bleu de travail. C'est-à-dire, sur le blanc de travail, on voit les tâches, donc tu touches pas trop, quoi, tu vois, tu touches pas trop les machines, tu dis comment il faut faire, voilà. Ça peut venir d'une expertise, des trucs comme ça. Enfin, Mais on n'en reste pas à ce rapport-là, très immédiat, très comme ça. Ça devient des instances politiques. Ça devient des instances politiques. L'encadrement n'en est pas resté à l'encadrement dans l'atelier, dans la croissance dans la croissance organique du capital, dans toute cette immense expansion. C'est devenu le rapport social total. Parce que bon, bah, les opéraïstes, comme Tronti, parlaient de l'usine monde, l'usine société, enfin un truc comme ça. C'est pas exactement ça, mais le social. C'est le capital, il n'y a pas de différence. Et l'État, dans ce cadre-là, c'est un aboutissement. Comme le syndicat, c'est aussi un aboutissement. Ça devient la prise en compte totale de l'intérêt supérieur de l'économie, de ce qui transcende, de ce qui organise, de ce qui dépasse par rapport au processus productif immédiat.
Oui, en fait, on peut dire que la classe d'encadrement, c'est la classe qui s'assure de la production de plus-value, qui va s'assurer que le processus de production de plus-value a bien lieu, effectivement, en patrouillant dans les ateliers, en formant la main-d'œuvre, en réprimant les grèves, les émeutes et tout ça, comme la police. Et d'autre part, qui va, même à un niveau encore plus large qui est celui de l'État, comme tu dis, qui va se charger de la production globale, des conditions générales de la production de la plus-value. On est vraiment sur. C'est pour ça que je trouve que le concept d'encadrement, même s'il est, il a aussi ses limites, mais il a vraiment un intérêt pour penser les classes moyennes salariées, parce que classe moyenne salariée, finalement, ça ne dit pas grand-chose, à part qu'elles sont moyennes, elles sont au milieu, qu'elles sont salariées, donc c'est pas la petite bourgeoisie. Mais effectivement, ce concept d'encadrement que propose Alain Beer, il est quand même vachement éclairant, parce que du coup, là, on comprend vraiment à quoi ça sert l'encadrement dans la société capitaliste. Ça sert à la faire tourner, parce que les capitalistes tout seuls ne peuvent pas la faire tourner. Et d'ailleurs, les capitalistes, sans l'État, sans l'encadrement, c'est pas possible. Ça n'existe pas.
Oui, bien sûr. Pas de capitalisme, il n'y a pas de capitalisme sans État, il n'y a pas d'État sans bourgeoisie.
C'est
Là,
ça.
tout ça est très harmonieux. Mais outre l'encadrement, il y a non seulement la reproduction des conditions de l'exploitation, mais il y a la reproduction, du coup, comme condition de l'exploitation, la reproduction de la classe elle-même, des classes elles-mêmes. La classe ouvrière, simplement par la formation de la main-d'œuvre, hein, par l'éducation, par les trucs comme ça. Ce qui permet à la classe moyenne de tenir le rôle, en réalité, de ce qu'on appelait le rôle paternaliste, hein, de la bourgeoisie auparavant. Qu'est-ce qui est plus paternaliste aujourd'hui? Aujourd'hui, les grands patrons ne sont pas paternalistes. Ce qui est paternaliste, c'est un enseignant du secondaire. C'est un enseignant du secondaire qui va dire, bah oui,
Il faut
moi je t'apprends la
s'intégrer.
citoyenneté, tu vois, Mohamed.
Ouais.
Pour le dire méchamment, tu vois. Parce que c'est vraiment eux qui reproduisent qui sont chargés de cette reproduction-là immédiate des conditions de reproduction du rapport. Pas seulement en termes strictement économiques, mais en termes de valeurs, de comportements, des trucs comme ça.
Oui, c'est vraiment global, c'est un phénomène social total d'une certaine façon,
Voilà.
l'encadrement. C'est pas juste l'encadrement économique,
Oui.
c'est l'encadrement du prolétariat, mais dans toutes ses
Oui.
dimensions, dans toutes les dimensions qui permettent la reproduction du capitalisme comme société. Parce que le capitalisme, évidemment, bon, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais le capitalisme, évidemment, c'est pas juste, entre guillemets, un système économique, c'est pas juste la production de plus-value, c'est pas juste le travail, la valeur, l'argent, la marchandise, etc., etc. C'est aussi la politique, c'est aussi beaucoup d'autres dimensions qui vont de pair avec lui, et qui, bon, parfois il y a des frictions, évidemment, entre le capital et l'État, mais qui sont d'une certaine façon les deux faces d'une même pièce, et qui vont de pair. Ce qui fait que c'est important de préciser ça. Même les oppositions qu'il y a à l'intérieur des classes d'encadrement, par exemple entre ce qu'on pourrait appeler l'encadrement étatique, main gauche de l'État, comme disait Bourdieu, et main droite de l'État, entre, je ne sais pas moi, les fonctionnaires syndiqués de gauche de l'éducation nationale et la police nationale, plutôt à droite ou même clairement à l'extrême droite, hein, au niveau de la sociologie électorale. Malgré tout, tous les deux, malgré tout, c'est l'ordre. L'ordre capitaliste, l'ordre étatico-capitaliste établi. Alors selon des modalités différentes. Parfois c'est de réforme, parfois c'est de la répression. Mais globalement, c'est des parties de l'ordre. Et c'est pour ça qu'évidemment, cette expérience le montre bien d'ailleurs, pour ça que les classes moyennes salariées, en tant que classe moyenne salariée, c'est-à-dire indépendamment des individus qui échapperaient à leurs conditions de classe, comme Marx par exemple, qui venait de l'encadrement, globalement, c'est des forces qui sont contre-révolutionnaires. Contre-révolutionnaires dans les deux sens du terme, c'est-à-dire contre-révolutionnaires, soit d'emblée arrêtent le mouvement par la répression, donc ça c'est le rôle de la police,
de l'État
dans ses fonctions répressives, ou alors qu'ils l'arrêtent en le dérivant vers quelque chose de beaucoup plus réformiste, vers un projet citoyen, un projet de compromis social, parce qu'on a beaucoup, on a beaucoup dit, c'est merveilleux. Un exemple très concret, c'est la social-démocratie autrichienne dans les années 20. Il y a des grèves générales en Autriche en 1918-1919. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est pas du tout le même cas qu'en Allemagne. En Allemagne, il y a un prolétariat qui s'insurge. Et là, la classe moyenne salariée, avec le SPD, la réprime en s'alliant avec les fractions d'extrême droite. Alors que... En Autriche, ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là. Ils ont juste dit, faites pas de révolution, les conditions sont pas mûres. En Allemagne, ça commence à tourner un peu vinaigre. Et on va vous créer des super logements et tout ça. Bon, effectivement, ils ont créé des super logements et tout. Et puis, finalement, quand la conjoncture a un peu changé, ils se sont pris l'austrofascisme et les nazis dans la gueule. Et le prolétariat était complètement désarmé. Je pense que c'est important d'affiner un peu cette analyse sur les dangers de l'interclassisme ou la notion de classe contre-révolutionnaire. C'est important de préciser ça et de préciser que derrière leur pluralité, main gauche de l'encadrement étatique, main droite de l'encadrement étatique, et puis après il y a encore l'encadrement libéral. Et Astarion lui en distingue deux, globalement des fractions. Donc il y a l'encadrement libéral des grandes entreprises qui va plutôt être dans un sens extrêmement libéral. Donc, c'est l'électorat cible de Macron. Je ne sais plus combien de cadres ont voté pour Macron au premier tour, mais il me semble que c'est un chiffre déjà assez hallucinant. Et puis après, il y a un deuxième. Lui, il distingue quand même une deuxième fraction qui est beaucoup moins dynamique, qui est, alors là pour le coup, elle va plutôt dans les PME. Qui voit qu'elle est en train de... Enfin, qu'elle n'a pas beaucoup de choses à gagner à la mondialisation. Et qu'elle
qui ne sont pas acteurs.
Qui ne sont pas acteurs, quoi.
Qui regardent leur carnet de commandes et qui sont un peu tributaires de ce que produit la grande industrie.
C'est ça. Et qui, du coup, eux, vont plutôt aller dans un sens un peu plus, peut-être, extrême droite, un peu plus... ils vont plus hésiter, quoi. Protectionnistes.
Enfin, garantistes, quoi. Enfin,
c'est
essayer
ça.
D'avoir...
Et qui, typiquement, vont les électeurs de Sarkozy de 2007 et de 2012... l'union de l'extrême droite et de la droite. Mais disons qu'au-delà de toutes ces différences, on a essayé de poser... ça nous donne quatre fractions, c'est peut-être pas encore assez. Mais disons qu'on voit un petit peu, on a une idée un petit peu plus claire des choses. Mais au-delà de ça, il y a quand même une unité fondamentale qui est qu'elles défendent toutes ces classes, toutes ces fractions de classe, défendent l'ordre étatico-capitaliste, défendent avec ça leur place, leur rôle dans la société capitaliste. Et ce qui va avec, les avantages matériels, qui sont peut-être assez risibles à côté de la révolution communiste, mais malheureusement sont bien tangibles, entre guillemets.
Les avantages matériels de la révolution communiste restent encore à déterminer.
C'est ça, effectivement. Donc,
les fractions des classes moyennes sont nombreuses, voire même à l'infini. On peut segmenter à l'infini les classes. Et c'est pour ça que... parler de classe moyenne salariée, c'est assez efficace. C'est ce qu'on essayait de faire aussi dans les discussions qu'on avait à l'intérieur de TC sur la classe moyenne salariée ou les classes moyennes. Moi, je parlais des classes moyennes et TC, théorie communiste, parlait plutôt de la classe moyenne. Et l'intérêt, c'est d'arriver à comprendre et à définir en quoi, il y a une unité de cette classe moyenne face aux grandes, à ce qui est le prolétariat théoriquement et le capital théoriquement, quoi. Et on peut dire que il y a deux classes qui fondent la contradiction, qui sont le capital et le prolétariat, qui sont l'essentiel de cette histoire. Et puis il y a ce troisième élément du ménage à trois, qui est la classe moyenne, qui malgré toutes ces variétés mène une politique qui est quand même assez cohérente et unique, quoi.
Oui, il y a une espèce d'unité, dans des antagonismes, et qui parfois peuvent être extrêmement forts, puisque parfois la fraction d'extrême droite écrase et lamine en Argentine, en Italie, en Allemagne nazie, écrase. Donc, comme toujours, les fractions, comme les fractions même du capital, qui peuvent se faire la guerre à mort par moment, il y a à la fois une unité. Et en même temps, ça n'empêche pas qu'il y a des réels conflits. Mais effectivement, il faudrait ni nier ces conflits, ni non plus se leurrer. Parce que finalement, le spectacle des élections ou par exemple de l'antifascisme comme idéologie un peu vague, on peut vite tomber dans finalement, si prendre parti de telle classe moyenne ou de telle fraction de la classe moyenne ou telle fraction de la classe moyenne. Et finalement, bon, s'enfermer dans quelque chose qui nous concerne pas vraiment. Et ça, c'est de manière assez générale avec les questions politiques ou géopolitiques.
Oui, c'est la question de prendre parti, tu veux dire.
Oui, c'est ça. Prendre parti pour le Hamas ou l'autorité palestinienne ou l'État israélien, qui sont, même s'ils ont des rôles très différents, puisqu'ils ont des rapports colonisateurs-colonisés, mais au-delà de ça, par contre, ils sont tous dans un rapport, pour le coup, d'encadrement politique et de maintien de... Et puis après, ce que je voulais rajouter, peut-être sur la question de la fraction, on va pas trop s'étaler dessus, mais évidemment, il y a aussi la question du genre, et aussi la question, alors qui politiquement, peut-être, n'est pas hyper prégnante, mais quand même un petit peu, on voit par exemple que le genre dans le programme de Mélenchon joue un rôle, le genre joue aussi
parité,
un rôle.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Ouais. Aussi, ça joue aussi un rôle, mais même dans les mesures, hein, il prétend quand même abolir le patriarcat dans son programme. Il prétend lutter contre le patriarcat.
Hein. Ah, Mélenchon, je voyais.
Mélenchon, oui.
D'accord, oui.
Mais Macron aussi, évidemment, il y a une composante de genre, et puis même Marine Le Pen maintenant s'y est mise.
Incroyable.
Voilà. Et puis après, évidemment, il y a la segmentation aussi raciste de la classe moyenne. Il faut quand même rappeler qu'effectivement, il y a une unité et que, pour finir un peu sur le premier article de Astarian, voilà ce qu'il dit, que certes, on ne peut exclure dans le tourbillon d'un mouvement à l'égyptienne plusieurs semaines d'émeutes, de manifestations montres, d'occupations de place à toutes activités pas spécialement révolutionnaires, qu'une rupture intervienne qui fasse passer la lutte du prolétariat à un autre niveau qualitativement différent. Donc plus un lutte interclassiste, revendicative de Moubarak dégage, mais quelque chose de qualitativement différent qui remet en cause les catégories de base du capitalisme, et donc le prolétariat lui-même, en tant qu'il est une de ces catégories. Et il dit « Une telle rupture n'a encore jamais eu lieu. » Nous avons dit qu'elle ne se fera pas par une transcroissance du processus interclassiste. C'est-à-dire qu'il ne pense pas que ça peut se faire dans une espèce de radicalisation généralisée. Il pense qu'à un moment, s'il y a une tentative de radicalisation du mouvement, les classes moyennes feront barrage. Mmh. Et effectivement, encore une fois, on va revenir sur ce cas pareil d'Évêque-Pratique, mais la révolution allemande, c'est exactement ça. Mmh. C'est à un moment, ok, on proclame la République, on abolit l'Empire allemand, mais on va pas plus loin, on ne commence pas à faire l'insurrection. Et ce qui amène carrément le SPD, qui était le parti de la classe ouvrière, à s'allier avec l'extrême droite et les généraux qui dénonçaient quelques mois auparavant. C'est uniquement si le prolétariat cesse, voilà, de négocier avec les classes moyennes, s'adresser avec l'État, qu'il peut y avoir une rupture qualitative au sein d'un mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire, parce que là, on est sur la question des places dans le mode de production capitaliste. C'est-à-dire, en fait, finalement, refuser la place du... Enfin, pour l'État, refuse sa place dans le mode de production capitaliste, plutôt qu'il cherche à l'aménager avec le concours d'une autre classe qui, elle aussi, a un rôle dans le mode de production capitaliste.
Et là, on est dans ce moment un peu spéculatif où le prolétariat, en s'abolissant, commence à intégrer les autres classes pour les abolir elles-mêmes. Parce que, bon, on ne peut pas en rester à l'idée d'une guerre civile, d'une opposition frontale entre classes, éternellement. Naturellement, ça c'est vraiment l'hypothèse du chaos qui paraît difficilement évitable. Ou comme ça, donc une hypothèse extrêmement frontale, même si on passait sur les questions de la répression qui sont prégnantes, mais à un moment donné, si le prolétariat commence à abolir les classes, il va abolir la classe moyenne aussi. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait d'autres pratiques, d'autres modes d'existence qui soient viables et qui ne comprennent pas des divisions du travail qui sont celles du capitalisme, quoi, et y compris cette division de classe entre classe moyenne, prolétariat, tout comme ça. Donc c'est un rapport à la propriété, c'est un rapport à la consommation, comment on fait pour manger, comment on fait pour distribuer des biens, comment on fait pour comment on fait pour sortir du capitalisme et à commencer à créer du communisme.
Et je pense que effectivement c'est une bonne manière de peut-être de finir cette émission sur de dire justement que donc on a beaucoup critiqué la classe moyenne salariée, mais évidemment l'interprétation la théorie critique qu'on propose des classes moyennes salariées, c'est évidemment pas une théorie critique entre guillemets essentialiste comme par exemple celle de Staline, qui considérait que, de manière complètement absurde d'ailleurs, que les fils de nobles, ou les fils de bourgeois, ou les fils des classes moyennes, étaient des gens intrinsèquement mauvais, qu'il fallait...
Il ne s'agit pas de faire des déportations de masse.
C'est ça, exactement. Bien au contraire, et de promouvoir à l'inverse, parce que quand même c'était le revers de la médaille, que du coup, les gens d'origine ouvrière, par contre, devenaient des bureaucrates dégueulasses qui envoyaient des milliers de personnes à la mort. Et à l'inverse de cette vision un peu essentialiste des classes, justement, c'est tout l'intérêt, à mon avis, de la communisation. C'est-à-dire que même le prolétariat, en tant que classe, s'abolit. C'est pas juste... parce que dans le schéma programmatiste, c'est il abolit les classes, les autres classes en les défaisant, mais il reste classe. Mais du coup, ça veut dire qu'on reste dans le capitalisme, justement. Et là, justement, dans ce mouvement, le prolétariat, en s'abolissant lui-même et en abolissant les autres classes, de manière conflictuelle et chaotique, plus ou moins, enfin, on verra pas, on sait pas. Il abolit, du coup, aussi les classes moyennes salariées, qui, du coup, ne sont plus classes moyennes salariées, qui deviennent juste comment est-ce qu'on pourrait les appeler, mais disons...
Des sujets révolutionnaires à ce moment-là.
Des sujets révolutionnaires à ce moment-là, et c'est pas la première fois dans l'histoire, enfin, je pense que il y a quand même eu pas mal d'exemples pour prendre l'exemple peut-être malvenu mais de Rosa Luxembourg dans le processus révolutionnaire des émeutes de Berlin fin 18 début 19, c'était plus un sujet de classe moyenne salariée ou de classe moyenne qu'elle était pourtant. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière possible, parce que justement Alstarion définit le prolétariat comme ce qui est sans réserve. Là, pour le coup, Rosa Luxembourg n'avait plus de réserve. Elle pouvait plus dire non, mais les copains du SPD, quand même, on s'est côtoyés pendant pas mal de temps. Là, c'était terminé. Et donc, là, effectivement, dans le processus révolutionnaire elle-même, des membres de la classe moyenne salariée, plus ou moins, on ne sait pas, peuvent déjà s'abolir en tant que classe moyenne salariée et donc cesser de défendre le capital. Parce que c'est vrai qu'on, globalement, en tant que classe, c'est ce qu'elle va faire. Mais les membres, en tout cas, pourront. Et après, une fois qu'un éventuel mouvement, une éventuelle révolution communiste est abolie, dissous ses classes, évidemment, la notion de classe moyenne salariée n'aura plus aucun sens, à part, évidemment, bon, bien sûr, on ne va pas faire table rase des individus, il y aura toujours des héritages, peut-être que dans d'éventuelles assemblées ou discussions, les membres des classes moyennes salariées auront tendance à parler un peu trop, mais bon... Là, on est dans la projection, donc...
Il y a des chances, ouais.
Voilà. Bon, bah, je pense qu'on peut finir joyeusement cette émission sur cette image que les classes moyennes salariées ne seront plus que des gens qui parlent un peu trop dans la révolution communiste. Enfin, dans la communisation, pour le coup, puisque c'est un processus, rappelons-le, et pas une uchronie qui arrivera après une longue transition. Bon, voilà, on espère que vous avez apprécié cette émission sur les classes moyennes salariées, sur leur dimension politique, leur dimension dans le mode de production capitaliste, dans l'État et tout ça. Et puis aussi, à chaque fois, sous un éclairage différent, leur place dans les luttes sociales et dans la révolution communiste. Donc merci Alain d'avoir fait l'émission avec nous.
Bah, merci beaucoup.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.